Bonsoir. Les travaux de construction des 74 maisons de la Cité de la Paix Cardinal Etchou dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa ont été lancés il y a une semaine par l'ONG Action pour la Solidarité et le Développement à Sodev, en sigle, selon l'abbé Oswald Bagaza, coordonnateur de cette ONG qui pilote ce projet. Ces maisons vont coûter entre 28 000 et 85 000 dollars américains à payer sur une échéance maximale de 15 ans. Quelle analyse faire de cette initiative et que faire pour améliorer la question de logement en RDC, c'est le thème que nous vous proposons ce soir. Et pour en parler, je reçois M. l'abbé Oswald Bagaza. Bonsoir, M. l'abbé.
Bonsoir, M. le journaliste et à tous les auditeurs.
Merci. Je rappelle que vous êtes administrateur directeur de l'ONG Action pour la Solidarité et le Développement à Sodev. Ingénieur Guy Bakumba, bonsoir, ingénieur. Vous êtes ingénieur urbaniste au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Architecte Deschongandou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes expert en maîtrise d'ouvrage. Merci à tous de nous recevoir chez vous. Bienvenue une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La construction de 74 premières maisons a débuté dans la cité de la Paix Cardinal Etchou, dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat a posé le 8 mars dernier la première pierre de ce projet. Jacques-Yves Molima pour les détails.
Les premiers travaux commencent dans un bref délai. Les matériaux de construction s'acheminent déjà sur le site. Les maisons témoins sont achevées. Et l'abbé Bagaza de spécifier.
Le projet compte au total 7 types de maisons pour 15 types de contrats d'au minimum 202 dollars par mois et au maximum 850 dollars par mois et pour une échéance maximale de 15 ans.
Il s'agit en effet de maisons dont les prix varient entre 28 et 85 000 dollars américains. Pour le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, le projet est encouragé car le coût est social. Omer Egwaki.
Ici, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le coût et la durée d'apurement des crédits qui s'allonge entre 0 et 15 ans. C'est encouragé.
Présent à la cérémonie, le cardinal Laurent Mossengo circonscrit en ces termes le projet de la Cité de la Paix.
Nous le savons de par la doctrine sociale de l'Église, il n'y a de paix que dans la justice et l'équité. Lorsque les biens d'une nation profitent à tous, chacun selon ses besoins vitaux et indispensables.
Cependant, la viabilisation du site et les voies d'accès posent encore problème. Toutefois, l'abbé Bagaza rassure, des pourparlers sont en cours avec les différents partenaires.
Merci Jacques-Yves Molima, monsieur l'abbé Oswald Bagaza. Je rappelle que vous êtes administrateur directeur de l'ONG Action pour la Solidarité et le Développement à Sodev. Monsieur l'abbé, parlez-nous de ce projet. C'est combien de maisons que vous allez construire? À quelles conditions? Donnez-nous un peu plus de détails.
Bien, merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité. Merci aussi à tous les auditeurs. Et merci aux autorités qui nous accompagnent, qui nous encouragent dans ce projet, les autorités gouvernementales et ma hiérarchie ecclésiastique. Vous avez suivi tout à l'heure son éminence le cardinal, donner sa bénédiction et son encouragement par rapport au projet. Bon. Le projet s'intitule UTPC. Un toit pour chacun. Donc comprenez que nous visons le bien-être d'un chacun. Le souci est de procurer un toit à tout le monde. Comme nous l'avons si souvent évoqué, nous sommes plus appesantis sur la présentation du programme du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Et là, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avait stigmatisé le déficit en dizaines de millions pour le logement à rattraper. Et vous savez, ce n'est pas une mince affaire. Il faut beaucoup d'ingéniosité pour essayer de rattraper ce retard et de combler ce déficit. Là, voilà pourquoi par rapport à la responsabilité qui est la nôtre en tant qu'ambassadeur humanitaire de la République. Nous avons reçu une mission de mobiliser des ressources pour les personnes vulnérables, pour les grands et petits. Et étant donné que le problème d'habitat figure parmi les problèmes épineux de ce pays, nous y sommes attelés avec le concours des ministères concernés. Nous avons mis en place un montage juridique et financier à même de proposer une solution contextualisée qui s'adapte au pouvoir d'achat de Congolais.
Alors, Monsieur l'Abbé, allons-y progressivement. C'est quel type de maison ?
Bon, nous avons 7 types de maisons. Uh-huh. Et disons, adaptées à toutes les bourses et aussi adaptées à tous les goûts.
Okay.
Vous, à la voir, comme malheureusement ils ne sont pas devant un écran, vous verrez que nous avons toutes sortes de designs qui répondent à toutes les attentes. Nous avons des maisons jumelées, nous avons de 2 chambres, 3 chambres pour la classe inférieure. Nous avons des maisons individuelles à taille humaine pour la classe moyenne. Et nous avons des grandes maisons dans des parcelles où vous pouvez même construire des piscines pour la place supérieure, vous pouvez appeler VIP.
Voilà, je ne suis pas très fort en description, mais sur les images là, je vois, ce sont des villas en fait.
Des villas en fait.
Alors, Monsieur l'Abbé, le coût, vous dites que le coût est accessible à tous, c'est pour les personnes vulnérables. On vous a entendu parler, dire que ces maisons coûteraient entre 28 et 85 000 dollars. Expliquez un peu ça.
Oui, 25 et 80 000, nous avons 7 types de maisons. A1, comme je venais de le dire là, maison de 2 chambres. Quand je parle des chambres, 2 chambres, il faut supposer toutes les autres dépendances. Toilettes visiteurs, cuisine, magasin, salle de bain, ainsi de suite. Garage, véranda, c'est à 28 000. C'est des maisons jumelées, séparées par un mur mitoyen. Ça, c'est pour une famille modeste. Une famille modeste plus importante, c'est avec beaucoup de membres de famille, c'est à 3 chambres. Jumelées, mais à 3 chambres, 31 100 dollars. Et comme au niveau de la classe moyenne, nous avons des maisons dans une parcelle individuelle. 3 chambres à 37 500 dollars. Et là, vous avez au moins 2 douches et une salle de bain commune pour les 2 chambres des enfants et les chambres de parents avec salle de bain incorporée. 4 chambres de ce type, c'est à 42 500. Quand vous montez au niveau de la classe supérieure, c'est là, les deux premières maisons, c'est A1 et A2. Les 2 dernières que je viens d'évoquer, c'est B et C. Et pour la classe supérieure, nous avons les types D. Donc, maison D1, D2 et D3. La seule différence, c'est que D1 a 3 chambres avec 2 vérandas, bureau aussi. D2, 4 chambres avec 2 vérandas. D3, 4 chambres. Avec 3 vérandas. Voilà, c'est ça la différence, c'est tout à fait spécifique.
Alors, ça se paye sur une échéance de 15 ans. Comment c'est réparti ?
Nous avons plusieurs types de contrats. Nous avons 3 types de contrats. Contrat cash, 10 ans et 15 ans. Nous avons dit, nous avons fait un montage à la portée de toutes les bourses. Il y a des gens qui sont à même de payer cash, 28 000, c'est à la portée de certaines bourses. Il y en a qui ne le peuvent pas, qui doivent payer sur un échéancier adapté à leur pouvoir d'achat. Et le moins cher à payer par mois, c'est 202 dollars. Ça, c'est par rapport à la maison la moins chère. Vous voyez la maison de 28 000. Quand vous êtes sur un contrat de 10 ans, vous payez 280 dollars par mois. Si vous êtes sur un contrat de 15 ans, vous payez 202 dollars par mois. Voilà.
Alors, dans le reportage de Jacques-Yves, on a suivi que les maisons témoins, elles sont déjà achevées. C'est combien de maisons ?
10 maisons témoins. Vous comprenez, bon, le projet était tellement ambitieux et chimérique que d'emblée, ça n'inspirait pas confiance et la conception des plans était faite à l'extérieur. Nous l'avons présenté à l'autorité d'État à l'époque, c'était le ministre Fridolin. Il avait estimé qu'on puisse adapter ça aux normes, aux réalités congolaises et certains de ses collaborateurs du ministère des ITP ont travaillé avec nous et il a fallu que on passe à l'expérience sur le terrain pour savoir si ça rencontrait tout ce qu'on a avancé. Ce qui a été fait au mois d'août dernier, il a été sur le terrain, il moyennant certaines recommandations, il a approuvé les plans et voilà que nous venons d'obtenir l'autorisation des bâtiments.
Merci Monsieur l'Abbé Osvald Bagaza. Ingénieur Guy Bakumba, vous êtes ingénieur urbaniste au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Comment vous accueillez ce type de projet?
Merci, M. Alain, pour la parole. Pour commencer, je vais d'abord commencer par remercier mes autorités de Kitel, à commencer d'abord par le ministre de l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme et l'Habitat. Je pense que les programmes du logement étaient inscrits d'abord dans le programme des 5 chantiers des chefs de l'État. Et même dans les DCRP de nouvelle génération, les logements étaient parmi les 5 piliers. Et l'initiative est vraiment louable, parce que c'est inscrit même dans les programmes du gouvernement, qui est soutenu par les ministères de Kitel, qui est le ministère de l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme et l'Habitat. Et l'initiative est vraiment très louable dans le cadre où la République démocratique du Congo souffre d'un problème, vraiment d'un problème criant en ce qui concerne les déficits en termes de logement. Les plans d'action nationale de 2001 estimaient déjà ce déficit à la hauteur. Ça, c'était le premier scénario, c'était le déficit minimum qui représentait 854 logements. Et le deuxième scénario, c'était le déficit maximum qui était estimé à 1 243 554 logements. Là, c'était en 2001. Et les programmes d'intervention prioritaires, les PIP, avaient préconisé pour résorber ces déficits de construire au moins 5000 logements par an dans chaque ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces enquêtes-là, dont je vous donne les chiffres ici, étaient menées dans au moins 12 villes du pays. Et vous allez remarquer que ce programme-là n'a pas été suivi.
Et pourquoi?
C'est par manque de financement aussi, parce que les promoteurs immobiliers dans les secteurs n'étaient pas beaucoup plus intéressés. Et ça a causé problème. Et aujourd'hui, avec un taux d'accroissement annuel de la plupart de nos villes, et je peux prendre l'exemple de la ville de Kinshasa, qui a un taux d'accroissement annuel qui varie entre 3 et 5%. Vous allez, si vous faites les estimations, vous comptabilisez avec moi, à partir de 2001 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez qu'il y a un taux d'accroissement annuel, il y a une augmentation des populations énorme. Et voilà le déficit qui était estimé en 2001, et aujourd'hui ça devient encore, je pense que ça triplé ou pas triplé.
Alors, ingénieur Guy Bakumba, vous avez cité les 5 chantiers, le DCRP, dans lesquels il y avait tous ces projets de lotissement, de construction de maisons. À ce jour, combien de maisons l'État a-t-il construit?
Bon, il y avait un programme qui a été lancé de construction de 4000 logements dans quelques villes du pays. Je crois qu'il y avait 6 villes qui ont été ciblées et l'opération avait commencé. Vous voyez la cité vers Mitendi et vers Kinkole, pour prendre le cas de la ville de Kinshasa et dans d'autres provinces aussi. Il y avait l'Équateur, il y avait des provinces à l'Est aussi. Oui, ça n'a pas fait long feu.
À cause des problèmes de financement que vous avez évoqués.
Voilà.
Alors, le projet que présentait tout à l'heure l'abbé Bagaza, il a donné les différents coûts, les différents prix de ces logements. À votre avis, est-ce abordable, est-ce à la portée de tous les Congolais?
Je pense que je suis en train de regarder les estimations qui ont été faites, parce que j'ai suivi M. l'abbé Bagaza ici quand il parlait de plusieurs types de logements. Mais comme moi je suis un technicien, je sais quand même recadrer un peu ces types de logements. Il y a ce qu'on appelle le logement très économique. Dans le logement très économique, lui, il parlait de logements pour les petits peuples.
Je ne me trompe pas.
Donc c'est des logements. Moi j'estime ça en termes de mètres carrés. C'est un logement de 48 mètres carrés. Donc, à l'époque, en 2001, on avait évalué les coûts en mètre carré, c'était à 70 dollars. Donc, avec tout, rien qu'en regardant ces logements-là très économiques, dont le coût en mètre carré variait à 70 dollars, je pense que avec les coûts que M. l'abbé Bagaza ici, ça se trouve un peu dans cette fourchette.
Alors, est-ce que c'est à la portée de tous les Congolais? 202 dollars par mois, tous les Congolais peuvent-ils les donner?
Bon, là, c'est une question qui reste un débat, mais à mon avis, ce n'est pas vraiment à la bouche de tous les Congolais. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai fait allusion à ce qu'on appelle les taux d'effort. Les taux d'effort, c'est quoi ? C'est la capacité contributive des ménages à participer, hein, à faire face aux opérations de l'immobilier. Si je prends par exemple le salaire d'un fonctionnaire, parce que la loi préconise 20% dans les salaires d'un fonctionnaire pour faire face à son taux d'effort est de 20%. Si je prends le salaire d'un fonctionnaire, vous voyez que ça reste un débat pour faire face à payer 210 dollars par mois, c'est un peu difficile. Ça reste un peu discutable. Alors, voilà un peu ce que j'avais à...
Alors, mais nous voyons à travers la ville, il y a des quartiers qui poussent, des quartiers non urbanisés. Quel effort l'État fait-il dans ce sens pour que les choses soient un peu plus ordonnées? On en parlera en profondeur dans la deuxième partie, ingénieur Guy Bakumba.
Donc voilà un peu, je reviens encore sur le plan d'action national de l'habitat de 2001 qui préconisait déjà tous les éléments sur cet aspect-là. Et beaucoup d'interventions, en termes de lois, en termes des initiatives menées par les ministères de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, qui réfléchissaient déjà sur ce que vous appelez ici les problèmes de quartiers précaires, que nous appelons dans des termes techniques les bidonvilles, la naissance des bidonvilles par-ci par-là. Et il y a eu beaucoup d'initiatives. Entre autres, je prends l'exemple du plan Sursac, hein, les schémas d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, qui préconise déjà, hein, de loger les gens pas dans des sites à risque, de loger les gens dans des quartiers assainis. Donc il y a déjà des initiatives dans le sens là, même au niveau des ministères de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme habitat, de doter chaque ville des plans généraux d'aménagement.
Merci, ingénieur Guy Bakumba. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Architecte Deshongandou, comment vous analysez le projet présenté par M. l'abbé Osvaldo Bagaza?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous donnez encore ce soir d'intervenir autour de cette question qui a trait au logement dans la République démocratique du Congo. En fait, d'emblée, comme vous l'avez ressenti auprès des différents intervenants, le projet est salué dans les sens positifs. Le ministre, pour ne pas les paraphraser, a même souligné que le coût du projet est social. L'ingénieur qui est de l'urbanisme tout à l'heure dans son intervention a fait voir les déficits combien criants que la République démocratique du Congo engendre, j'allais dire, en termes de logement. C'est-à-dire que nous avons une déficience très énorme, ce qui fait que lorsque un privé, un promoteur s'engage dans ce genre de projet, on ne peut que l'encourager. Mais à côté de ça, j'ai un certain nombre de préoccupations. Qui dit projet voit les piliers, les fondements sur base desquels un projet est appelé à réussir. Un projet suppose une qualité, un projet suppose un coût, un projet suppose une durée. Monsieur l'abbé a parlé du projet, les coûts. On nous parle d'un coût minimum de 28 000 dollars, un coût maximum de 85 000 dollars. Et la première préoccupation, c'est de savoir, les 28 000 dollars, c'est pour quelle surface bâtie? Parce que on peut construire un studio avec 28 000 dollars, un studio de 2 mètres sur 2, très confortable, mais pour un usage autre qu'un logement. On peut aussi construire une grande labyrinthe avec 28 000 dollars, avec des matériaux trop précaires à tel point que au bout de 4-5 ans, on commence à vivre, par exemple, des délabrements un peu partout. Donc, c'est là que revient ma première préoccupation. Les coûts au mètre carré des constructions et des combien? Parce que c'est sur base de ça que nous allons savoir, ou plutôt juger, de la qualité des matériaux qui sont affectés à la construction de ces villas. L'ingénieur Guy, tout à l'heure, a fait allusion de données empiriques relevant de 2001 où les coûts au mètre carré d'une construction moyenne variaient autour de 70 dollars. mais nous sommes à 14 ou plutôt à 15 ans de différence entre 2015 et 2011, ce qui fait qu'il y a eu une très grande évolution dans la qualité de matériaux, dans l'apport de nouveaux matériaux sur la construction, les différentes constructions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les coûts au mètre carré d'une réalisation n'est pas toujours de celui de 70 dollars le mètre carré, mais ça connaît une certaine évolution. Alors, j'aurais souhaité que M. Labbé nous dise quel est d'abord, pour tel type de construction, quelle est la surface bâtie pour 28 mètres, quelle est la surface bâtie pour 31, quelle est la surface bâtie pour X montant. Ça, c'est une préoccupation. Je reviens encore autour de la qualité. Lorsqu'on parle d'une maison de 2 chambres, de 3 chambres, c'est bien beau, mais c'est quel type de chambre? Parce que le confort exigé pour bien vivre, pour bien se détendre, pour bien dormir, est d'un certain volume d'air dans une pièce qu'on appelle chambre, et quand on y loge, par exemple, 2 ou 3 personnes. Alors, on peut bien dire que ça, c'est une chambre où on va loger 2 personnes, mais si c'est une chambre de 2 mètres fois 2, ou plutôt de 2 mètres fois 3, là, vous conviendrez bien avec moi qu'on est en train de confiner des gens dans une sorte de surface très comprimée et qu'il ne fera pas beau vivre.
Vous avez architecte Deschaux.
Oui.
Voilà. Monsieur l'abbé Bagaza va répondre tout à l'heure à vos préoccupations. Mais avant ça, comment vous vous expliquez le déficit en termes de logement que l'on connaît en RDC?
Oui, les déficits en termes de logements que nous connaissons en RDC remontent de ce que notre pays a connu comme problème. À un certain moment de l'histoire, l'État cessait d'être l'État, vous comprenez ce que je veux dire par là. Parce que l'État, c'est une grande société qui doit prendre en charge les autres petites sociétés. La famille, c'est une petite société. Les besoins en logement, c'est une petite société. Et tous ces besoins-là, ça veut dire tout ça... L'État, d'une manière ou d'une autre, est appelé à intervenir. Ailleurs, dans certains pays, il y a la promotion immobilière qui est faite en grande partie par l'État. Vous avez les cas de l'Afrique du Sud. Vous avez les cas des pays de l'Afrique du Nord où chaque année, l'État pourvoit aux besoins en logement, en construisant de nouveaux logements parce qu'on sait que la croissance démographique, et surtout dans le pays de l'Afrique subsaharienne, est très très accrue à tel point que la taille de la population augmente. Et quand il y a l'augmentation de la taille de la population, il faut pourvoir aux besoins. C'est-à-dire, ces besoins-là, je vois les transports, je vois l'habiter, je vois les travails, je vois l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie. Et tout cela, c'est l'État qui doit faire face pour essayer de maintenir les caps de la population. Mais nous avons connu beaucoup d'années où, en fait, l'investissement social en termes de logements...
Merci.
Vraiment pas une préoccupation pour l'État.
Merci.
Et fait que les années cumulées, nous sommes aujourd'hui en train de connaître ces grands retards et cette grande déficience en termes de logement.
Merci, architecte Deschaux Ngandou. Monsieur l'abbé Oswald Bagaza, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Maxime Kabila de Lubumbashi au Katanga. La construction de 74 maisons de logement au profit des Congolais, c'est une très bonne initiative. Bravo à cette ONG et à Monsieur Oswald Bagaza, mais une question mérite d'être posée. Quel est le salaire du Congolais qui appuierait un crédit de 28 000 ou 85 000 dollars, même dans une échéance de 15 ans? Moi, je pense que c'est fallacieux. Il faut revoir à la baisse les coûts de ces maisons.
Monsieur l'abbé Bagaza, je vous vois sourire.
Oui, bien merci. Et c'est pas, je commence par quelle préoccupation de l'architecte ou de tout à l'heure?
Commencez plutôt par l'auditeur et puis vous allez aborder les préoccupations de l'architecte.
Oui, bien merci. Je pense que c'est une expérience qui s'inscrit et parmi tant d'autres. Je pense que à l'occasion des missions questions de population sur la RTNC, nous avons eu à répondre à la même question. Nous avons essayé, par rapport au contexte et aux réalités de notre pays, de proposer le plus bas prix possible. Et puis, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a des objections convaincantes par rapport à ce que nous sommes en train de faire, qu'on
ça
nous les oppose pour que nous allions plus bas, mais tout dépend. C'est question, ici c'est l'occasion aussi de, permettez-moi de revenir aussi à la préoccupation de l'architecte. Vous savez qu'il y a des choses qui relèvent pour la plupart des cas des obligations régaliennes de l'État. Et l'État, ayant beaucoup de priorités et de contraintes, n'arrive pas à pouvoir à tous les besoins au même moment. Et il y a un déficit criant en ce domaine. Nous avons essayé de proposer une ingénierie financière pour répondre à cette préoccupation. Et en m'apaisantisant ici, je suis en train de faire une comparaison aussi, parce que le logement social, ce n'est pas seulement ici chez nous. Nous avons fait un peu le tour du monde. Nous avons été en Afrique du Sud. Je reviens de Dakar, où j'ai participé au sommet de réseau francophonie habitat, dont notre pays fait déjà membre à travers ce projet. Nous avons échangé avec d'autres pays africains.
Alors, Monsieur Labbé, dans tous ces échanges, qu'est-ce que vous en avez retenu? Parce que l'ingénieur Guy Bakumba disait, par exemple, qu'un fonctionnaire, est-ce qu'il pourrait payer 202 $ par mois?
Mais je pense que vous n'allez pas me dire qu'un fonctionnaire, bon, d'après ce qui s'est dit, les salaires moyens du Congolais sont autour de 90 $, et vous n'allez pas me dire que tout fonctionnaire congolais ne vit pas au-delà que de 90 $. Il y a plusieurs mécanismes à mettre en place pour subvenir à ses besoins. Et ce que nous proposons aussi, nous l'avons adapté au pouvoir d'achat du Congolais quotidien. Avoir l'engouement qu'il y a autour de ce projet, avoir, disons, les comparaisons qu'on fait avec d'autres projets, nous sommes plus encouragés. Si il y a quelque chose de meilleur à nous proposer par rapport à ça, on nous verrons pourquoi les autres sont mieux disant que nous. Nous allons essayer d'améliorer. Mais nous sommes en train de prendre en charge plusieurs, disons, subventions qui viendraient de l'extérieur pour essayer d'alléger. Nous le faisons à la place de tout, à la place d'autres responsables. Voilà pourquoi nous sommes à ce prix et nous sommes assez avantageusement accompagnés par le gouvernement pour en arriver là. Ce qu'il propose, c'est un idéal. Mais quand vous allez même dans d'autres pays, que ce soit en Europe,
voilà, j'allais parler de votre expérience par rapport à d'autres pays. Qu'est-ce qu'on peut en retenir?
En retenir, nous sommes plus compétitifs par rapport à d'autres pays. J'ai évoqué le sommet
de Dakar.
Quand nous avons été à Dakar, le leadership est incarné par le Maroc suivi du Sénégal. Mais qu'est-ce que nous avons vu par rapport à... Quand nous parlons logement social, le social ici, c'est par rapport au coût et à l'accessibilité même à cette propriété. Le Maroc, jusque-là, incarnait le leadership. Le Maroc fait des logements sociaux pour les bancarisés et les non-bancarisés. Il a aussi une échéance maximale de 15 ans comme nous le faisons. Mais la seule différence, à la 14e année, par exemple, le Maroc, quand vous êtes insolvable, mais vous perdez tout, c'est comme dans le système contrat location. Alors que pour notre cas, quand on est insolvable, on vous remet dans votre droit à travers un autre repreneur. Nous avons été par rapport au Sénégal. Le Sénégal a jusque-là, avant que nous présentions notre design, le Sénégal avait le terrain le moins cher, 10-15 à 9 000 $. Mais alors que ce terrain ici, rêvé chez nous, à 3 500 $. Et nulle part où nous avons été, on n'avait pas une maison à moins de 25 000 €. Et pas avec les équipements que nous avons ici.
Et donc, on retient que vous êtes plus compétitif.
Nous sommes plus compétitifs.
Voilà. Pour tenter de...
Pour compléter l'ingénieur aussi de l'urbanisme, il a parlé de 40 mètres carrés pour les maisons les plus économiques. Pour satisfaire à la curiosité de notre ami Deschaux, qui peut aller dans les détails, notre maison est à 73,89 mètres carrés. Donc allez-y, c'est presque les doubles de ce qu'il a proposé.
Merci, Monsieur Labbé. Pour tenter de répondre au déficit criant de logement en RDC, le gouvernement congolais a lancé, et cela depuis plusieurs années, des projets de logements sociaux aussi bien à Kinshasa que dans certaines villes de l'intérieur du pays. Où en sommes-nous avec tous ces projets à ce jour? Jacques-Yves Molima.
En octobre 2005, le premier coup de pioche est donné à Mitendi, commune de Mongafula, ici à Kinshasa, pour la construction de près de 4100 logements sociaux. À l'époque, le programme du ministère de l'Urbanisme et Habitat prévoyait la construction de 3 millions de logements jusqu'en 2015. Aujourd'hui, seules 52 maisons ont poussé dans cette cité dénommée Cité Millennium. Entre-temps, la même année, les travaux débutent dans la cité musée Laurent-Désiré Kabila à Kintsuka. 152 maisons sont érigées. C'est le camp des travailleurs de la SNEL. Le reste des maisons, ainsi que le complexe commercial et sportif prévu, ne sont toujours pas construits. En octobre 2008, c'est le gouvernorat de Kinshasa qui lance la construction de 4000 maisons à Kikole et 6000 en Djili Brasserie en collaboration avec la régie immobilière de Kinshasa, Rimokin. Le projet aurait dû être achevé en 2011. Le 8 juillet 2009, le gouvernement présente au Grand Hôtel Kinshasa un projet de construction de maisons à panneaux par Shrel House. 10 500 maisons devraient être construites, mais le projet n'a jamais débuté. La même année 2009, l'entreprise Safricas gagne le marché de la construction de la cité des 5 chantiers avec près de 4004 maisons. Aujourd'hui, juste une trentaine de maisons construites, mais non habitées. Entre-temps, seules les constructions de la pépinière des Bandal et des Fikine poussent et là, il n'est pas question des sociales.
Merci Jacques-Yves Molima. Ingénieur Guy Bakumba, ça fait beaucoup de projets non réalisés de la part de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez évoqué le problème de financement. Est-ce parce que les autres bailleurs n'ont pas confiance à l'État congolais? Pour vous, à quel niveau se trouve le problème? À part les financements, est-ce qu'ils n'ont pas confiance au gouvernement congolais?
Non, actuellement, je crois que les bailleurs ont confiance au gouvernement congolais. Si vous suivez à la télé, vous allez voir ces derniers temps, les ministères de l'aménagement des territoires et de l'urbanisme Habitat, ils reçoivent presque chaque jour les partenaires qui viennent pour entreprendre dans le domaine de l'habitat.
Mais malheureusement, on ne les voit pas, ingénieur Guy Bakumba. Ils évoluent où, toutes ces personnes?
Donc les projets sont encore en chantier. Je pense que ça sera mûri d'ici là. Pour revenir un peu à ce que j'avais parlé tantôt là de problèmes de financement, il y avait un problème de financement comme je l'avais dit, et de la continuité aussi de certains projets sur terrain.
Et donc chaque ministre qui vient balaye des projets précédents et amène les siens, ainsi de suite.
Bon, je pense que c'était ce qui se passait à l'époque, mais actuellement, je pense que les choses sont vues maintenant autrement. Il y a une certaine continuité dans les services publics. Donc voilà un peu ce que...
Alors, nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission. Que faire pour résoudre le problème de logement en RDC? Nous allons prendre pour vous, ingénieur Guy Bakumba, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Rohamed de Bukavu au sud Kivu. Je pense que cette initiative de construire des maisons d'habitation est bonne. Et d'ailleurs, c'est à saluer. Néanmoins, l'accès à celle-ci ne sera pas facile à toutes les couches sociales, étant donné leur coût d'acquisition qui reste exorbitant, prohibitif. Encore faudrait-il que le gouvernement mette sur pied une politique sociale non discriminatoire d'octroi de crédits, bail à tous, si l'on veut bien résoudre efficacement les problèmes de logement à l'RDC.
Voilà, c'est la deuxième partie qui me paraît plus intéressante. La première, on y a répondu, que le gouvernement mette sur pied une politique sociale non discriminatoire d'octroi des crédits bail à tous. Est-ce que vous pensez, ingénieur Guy Bakumba, que ça pourrait résoudre le problème de logement en RDC?
Effectivement, je pense que la personne qui vient de parler ici, je suis d'avis avec lui. Pourquoi? Parce que chez nous ici, dans notre pays, il y a la plupart des banques qui interviennent chez nous ici sont des banques commerciales. Bon, les banques commerciales, ils ont des taux d'intérêt qui sont un peu énormes, et puis les temps de remboursement est vraiment trop petit. Donc voilà un peu. Il faut qu'il y ait vraiment de banques d'habitat, des banques. C'est comme ça que j'ai loué l'initiative de l'ONG Association.
Asodev
de l'abbé Bagaza, qui ont regardé les temps de remboursement de 15 ans. C'est vraiment intéressant. C'est qu'il n'est pas possible dans des banques commerciales. Donc, normalement, il devait être mis sur pied des banques d'habitat, parce que les banques d'habitat, ils œuvrent presque dans la même manière que ce que venait de dire M. Abbé Bagaza ici, les temps de remboursement, les chances de remboursement. Je pense que les banques d'habitat vont jusqu'à 25 ans. Des remboursements. Et le taux d'intérêt n'est pas comme les banques commerciales. Je pense que si le gouvernement met sur pied la politique de mettre sur pied des facilités l'installation des banques d'habitat ici, ça sera une bonne affaire. Et aussi de mettre sur pied ce que j'appelle les microfinancements communautaires, au niveau local. Parce que les banques d'habitat, c'est au niveau national. Mais les microfinancements les microfinancements au niveau local, ça devait permettre à ce que les petits peuples au niveau local d'accéder au microfinancement, au microfinancement habitat, et mettre si peu aussi des crédits matériaux. Dans le sens pour assister l'autoconstruction, pour améliorer même la qualité du logement. Donc voilà un peu dans les politiques que l'État devait mettre sur pied pour résoudre les problèmes du logement et voire même de la qualité de logements.
Mais il y a un certain moment dans ce pays, ingénieur Guy Bakumba, on a parlé de l'ONEM, cet office qui s'occupait des maisons. Est-ce que l'État ne pourrait pas revenir à un tel système par exemple?
Je pense que c'est le système qui a marché. Ce qui a marché, on devait quand même les féliciter et si tant soit peu, les récupérer. Pourquoi? Parce que si on va très loin, parce qu'il y avait ONEM, il y avait SNCI, c'était des systèmes qui ont marché, qui ont donné des logements à la population congolaise.
Donc on peut toujours y revenir.
Oui, vous pouvez toujours y revenir, mais tout en tenant compte, surtout les certaines sociétés qui œuvrent dans le social. J'ai pas par exemple le cas des l'INSS. Ils devaient quand même appuyer aussi certaines actions dans le cadre des logements. Il y a SONAS, pour ne citer que ces sociétés-là.
Merci, ingénieur Guy Bakumba. Architecte Deschaux Ngandou, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Béni au Nord Kivu.
Je réponds au nom de Gérard Tambale Kazingoufou. J'appelle à partir de Béni, la province du Nord Kivu. Le projet cité cardinal et tout aura toute la chance d'aboutir. Si et seulement si c'est l'Église qui prendra les commandes. Sinon, ça ressemblera à d'autres humains en mi-chemin à l'état du projet dit Trois Maisons, situé à Beni, dans la commune Bungulu, depuis le plan Kabila Père.
Bref réaction, architecte de Chongandou. Il faudrait que ce soit l'Église, chez Chaudécre, même l'eau froide, dit-on.
Oui, les commentaires de tout à l'heure autour du reportage a montré... combien de contre-performances nous avions eu à enregistrer dans le cadre des projets de promotion immobilière. J'ai en même temps un sentiment mitigé, une satisfaction et puis une crainte en même temps. Parce que lorsque, permettez-moi, je voudrais ce soir parler beaucoup plus avec les chiffres, lorsque je prends les coûts bas de la villa et les coûts de la villa la plus élevée, et que je réduis une certaine moyenne. Quand je prends cette moyenne-là, et que j'essaie de la multiplier par 180, ce qui représente à peu près le nombre de mois pour une durée de 15 ans, je me retrouve avec un chiffre inférieur à 28 000 $. C'est là qu'il y a une crainte. Est-ce une œuvre philanthropique? Est-ce un projet qui, partant des 64 maisons, va encore produire d'autres? C'est là que j'ai beaucoup de préoccupations et de craintes. Je crains que, au fait, le projet de M. Labbé puisse emboîter les pas à d'autres contre-performances que nous craignons. J'aurais bien voulu les rencontrer en aparté pour essayer de parler beaucoup plus profondément avec lui. Mais d'emblée, les éléments qui me sont présentés, même si c'est à la volée, n'inspirent pas beaucoup de confiance sur les chiffres, sur l'aboutissement. Je suis expert du bâtiment. Et c'est à quoi, en fait, je m'attelle dans mes propos.
Voilà. Architecte Deschaux, Monsieur Labbé va vous répondre. Je disais que nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission. Il y a l'ingénieur Guy Bakumba qui a fait un certain nombre de propositions pour améliorer la question du logement en RDC. Il a par exemple cité qu'il fallait que l'État mette en place la banque de logement, les microfinancements, des crédits matériaux. Quelles sont vos propositions pour que l'on résolve une fois pour toutes la question de logement en RDC?
Ok, je ne vais pas ce soir inventer la roue. En matière de logement, il y a eu des colloques dans ces pays, il y a eu des séminaires, tant sur le plan national que sur le plan international. Vous savez, lorsque l'État ne sait pas se prendre en charge pour ce qui relève de ses droits les plus régaliens, M. Labbé l'a dit, tout ce qu'on pourra faire ne pourra vraiment pas avoir beaucoup plus de chances d'aboutir. Il faut que, bien sûr, l'État a beaucoup de responsabilités devant lui, mais au fait... commencer avec un faible commencement, un début des projets, des logements sociaux qui commencent et qui se terminent, et puis, en un mot, soutenir ceux qui sont en train de se lancer dans la promotion immobilière, ça serait une bonne chose. Actuellement, on parle des partenariats publics-privés. Il faut que, d'une part, l'État encourage les cas des projets comme celui de M. Labbé, et d'autre part, au même moment, que l'État, en fait, soit le premier, les pionniers, à montrer qu'il y a un déficit et que je suis en train de fournir un effort. Donc, il n'y a pas, en fait, 1000 solutions. Il faut revenir sur les colloques, il faut revenir sur les résolutions qui ont été déjà formulées, mises en place, et chercher à les appliquer aux strictes mesures. Les pays voisins, les pays comme l'Angola aujourd'hui, est en train de faire des exploits en matière d'immobilier. On construit énormément des projets à caractère sociaux. L'Afrique du Sud l'a démontré avec Mandela. Dans 5 ans, on a résorbé une bonne partie des problèmes en matière de logements. L'Afrique, les pays de l'Afrique du Nord sont en train de démontrer combien on peut arriver à résoudre les problèmes, si pas à 100%, mais en grande partie, comment on peut arriver à résoudre les problèmes des logements sociaux. Donc il faut aller voir ce que les autres font et prendre ce qui est bon, venir l'appliquer dans les contextes qui est les nôtres.
Merci.
Nous n'avons pas le même contexte environnemental, mais nous pouvons copier ce qui est mieux chez les autres et essayer d'améliorer chez nous. Et de cette manière-là, on arriverait à résoudre les problèmes.
Merci, architecte Deschongandou. Je signale qu'il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Monsieur l'abbé Oswald Bagaza, il y a Robert Kabandani qui nous écrit de Bukavu, qui souhaite que ce projet ne s'arrête pas qu'à Kinshasa, qu'il soit appliqué dans toutes les provinces. Il y a Georges Fataki de Kinshasa qui dit, pour améliorer le logement en RDC, il faut un salaire suffisant et que l'État impose le prix des matériaux de construction qui soit à la portée de tous les Congolais. Monsieur l'abbé, vous avez suivi d'autres préoccupations de l'abbé Bagaza, l'architecte Desho Ngandou. Comment vous y répondez?
Merci, je suis plus à l'aise parce que d'une part, il y a les auditeurs de Bukavu et de Lubumbashi qui ont estimé que c'était plus cher. Et de l'autre côté, vous voyez, l'ingénieur des choses pense que c'est de la philanthropie. C'est pour vous dire combien de fois on a fourni.
C'est pour ça que c'est un logement social.
C'est un logement social, donc ils ont tous. Moi, je pense que le problème épineux, c'est le problème d'une loi spécifique en la matière et aussi le problème d'un financement qui doit accompagner ça. Enfin, il y a beaucoup de spéculations dans ce domaine ici. C'est ce qui pose ce problème. Et pour répondre aux préoccupations des uns et des autres, je pense que nous avons mis du temps pour faire en sorte que ce projet aboutisse. Les autres projets qui n'aboutissent parce que le montage financier n'est pas bien bouclé au départ et quelque part, ça ne suit pas et on s'arrête. Alors notre ingénierie financière est conçue de sorte que le projet est financé par nous moyennant la participation de tous les souscripteurs et c'est l'expérience qui nous conduit jusqu'à ce jour. Et par rapport à la préoccupation de tout à l'heure de Bukavu, nous avons identifié déjà 35 sites à travers le pays. Et nous avons fait des propositions concrètes au gouvernement, avec nos partenaires allemands, avec seulement 5 millions de dollars d'investissement par province, et ce qui n'est pas au-delà des capacités du gouvernement, qui a même mobilisé 100 millions pour le secteur de l'éducation, 55 millions de dollars. Nous avons des unités de production dans chaque province qui vous produisent 1500 maisons de 100 mètres carrés par année. Et je vous dis, il y a le gouvernement bavarois qui nous accompagne dans ce projet. Il y a même le ministre d'État bavarois qui s'apprête déjà à écrire, qui a mobilisé toutes les banques bavaroises pour nous accompagner dans ce projet. Donc, il y a mieux de voler. Je suis très content parce que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, nous accompagne déjà.
Vous accompagne également. Merci, monsieur l'abbé. Alors, ingénieur Guy Bakumba, il faut déjà conclure. L'architecte Desho Ngandou a dit qu'il y a beaucoup de colloques, beaucoup de conférences qui se sont tenues sur cette question en RDC. Il faudrait simplement voir les conclusions et les appliquer.
Effectivement, il y a eu beaucoup de colloques. Je crois que j'ai cité le plan d'action national de l'habitat de 2001. Il y a eu beaucoup de colloques. Et on a été même à Dakar dans le cadre du programme PPAD pour prévenir les bidonvilles. Je pense qu'il y a eu beaucoup de programmes. Mais pour conclure, l'élément qui est fondamental, je pense que les gouvernements, à travers les ministères de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, a vraiment un défi à relever. Parce que notre pays, on avait 11 provinces, et aujourd'hui on passe à 26 provinces. Et dès qu'une entité atteint 100 000 habitants, telle qu'est dit notre loi, tous les chefs liés des provinces devaient avoir, sont des villes, devaient avoir des plans d'aménagement. Pourquoi? Parce que les problèmes de l'habitat relèvent d'un problème au niveau général. Parce que l'habitat, c'est un élément dans un ensemble, dans une ville.
Exactement.
Donc, on doit avoir des plans généraux, des plans d'aménagement pour chaque ville et des plans particuliers d'aménagement pour maintenant que l'habitat s'intègre à ces espaces-là.
Merci.
Voilà ce que j'avais ajouté.
Merci, ingénieur Kibakumba, pour cette intervention. Architecte Deschongandou, un mot en guise de conclusion, on a terminé.
Bon, j'encourage le projet, mais j'aurais voulu que on l'approfondisse encore davantage. Je suis resté sur ma soif, un nombre de préoccupations. J'encourage les projets et toi, monsieur l'abbé.
Merci, on vous mettra en contact avec l'abbé Bagaza. Vous allez approfondir hors micro. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de votre attention. Réalisation Guy Mathieu, assisté de Berry Franklin Luchaka, mise en onde Alain Goy, supervision Ben Kabamba, présentation et coordination Alain Rungmouchige. Au revoir.